France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Le disait dans le préambule de l'émission spéciale de Panorama qu'Antoine Speer lui consacrait en 1988, Pierre Mendès-France ne croyait pas lui-même à l'existence d'un mendésisme. Pour autant, il y eut un style Mendès-France qui, comme le soulignait François Mitterrand en lui rendant hommage après sa disparition en 1982, a durablement marqué l'histoire politique de notre pays. Ce style Mendès, le premier temps de ce panorama de 88, l'avait abordé essentiellement sur les plans économiques et politiques hexagonaux, alors que dans la seconde partie, que nous allons entendre, ce style était interrogé à travers l'approche par Pierre Mendès-France de la question de la décolonisation. En Indochine, en Tunisie et en Algérie, des questions de politique internationale, de la crise du canal de Suez notamment, et à travers son action en faveur d'une solution au conflit israélo-palestinien qui occupa les dernières années de sa vie. Panorama, émission spéciale Pierre Mendès-France, seconde partie, diffusée la première fois le 1er juin 1988 sur France Culture, et dans laquelle intervenaient Madeleine Rebériou, Josiane Rosine, Lise Andriès, Michel Field et Jean-Marie Benoît.
La semaine dernière, c'est surtout de Pierre Mendès-France et de l'économie que nous avons débattu. Une conception originale de la politique est apparue. Aujourd'hui, c'est Pierre Mendès-France et la politique extérieure que nous voudrions traiter. Pierre Mendès-France et la décolonisation. Pierre Mendès-France et le conflit du Moyen-Orient. Et tout d'abord, Pierre Mendès-France et l'armée. Mais, au fond, le mendésisme est-il une conception qui a un sens? Le mendésisme lui-même est-il une doctrine?
Ah ça, j'ai jamais su ce que c'était. Je sais ce que c'est que le gaullisme. D'autant que j'ai connu de Gaulle, que j'ai admiré l'homme, que j'étais fasciné par le personnage. Et par conséquent, je comprends les sentiments de ceux qui se sont dits gaullistes. Pour ces hommes, ils avaient une telle confiance, une telle foi, une telle admiration pour de Gaulle, qu'ils s'en remettaient à lui, ils lui donnaient un blanc-seing, ils le chargeaient de régler les problèmes, ils étaient sûrs d'avance que ce qu'il ferait serait bien fait. Je ne vois rien de semblable dans l'action que j'ai menée personnellement. Je n'ai jamais demandé de blanc-seing. Je n'ai jamais demandé qu'on me fasse une confiance en blanc. J'ai toujours essayé de développer, de multiplier les occasions de dialogue, de débat, de contestation, de discussion, de travail d'équipe. Je me suis toujours soumis au contrôle, aux critiques. J'ai toujours essayé de déclencher des mouvements collectifs. Par conséquent, loin de rechercher une délégation de pouvoir, je cherchais au contraire à mettre en mouvement le plus grand nombre possible de gens dont je sentais qu'ils pensaient comme moi, qu'ils me confiaient même par moments des responsabilités importantes, mais il s'agissait de leur combat et par conséquent, ils devaient le mener.
Dans les orages et les affaissements de la 4e République, il avait apporté, et la jeunesse de France y avait applaudi, la lumière et le redressement. En moins de 8 mois, il avait arrêté l'effusion de sang de la guerre d'Indochine, donné de façon spectaculaire et à la lettre révolutionnaire un élan décisif à la décolonisation, avec l'émancipation de la Tunisie. Pris les dispositions les plus novatrices pour notre défense nationale, imprimé aux orientations de notre économie une rare impulsion, inaugurer enfin un style et une méthode dont l'empreinte marque encore ceux qui ont à décider où qu'ils se trouvent du destin de la France.
On a rarement parlé des rapports de Mendès-France et de l'armée. Pourtant, il consacra à l'armée quelques conférences et discuta souvent des conditions dans lesquelles il était en débat, en discussion avec la direction de l'armée.
La seule punition que j'ai eue pendant toute ma vie militaire a été 15 jours d'arrêt de rigueur qui m'ont été collés par mon colonel parce que je l'avais engueulé une fois parce qu'il ne voulait pas m'engager dans une opération où j'avais envie d'aller. C'était le colonel de Rancourt qui est aujourd'hui général à la retraite. J'étais exaspéré, j'ai été insolent, je reconnais que c'était, militairement parlant, j'étais dans mon tort. Je dois dire que dans la période immédiate après-guerre, je ne souhaitais pas que l'on consacre une trop grande partie du revenu national au redressement militaire, et je constatais bien que des pays comme l'Allemagne ou le Japon, ou l'Italie, pour ne prendre que les pays battus, pouvaient consacrer toutes leurs ressources à leur redressement économique, à leur reconstruction et à leur redressement économique, tandis que nous avons toujours consacré aux dépenses militaires une fraction énorme. Il faut bien dire que les besoins de l'Indochine jouait dans le sens que je trouvais pour ma part le plus dangereux. Et c'est alors que j'ai eu à parler avec les militaires, notamment avec le général Koenig qui était ministre de la Défense nationale, et que j'ai constaté que si par malheur nous n'arrivions pas à la paix, il serait indispensable, ne serait-ce que pour sauver les militaires français qui étaient encore là-bas, en situation très aventurée, il serait indispensable d'aller à leur secours et d'envoyer du renfort. C'était un paradoxe qu'un gouvernement comme le mien, qui voulait faire la paix, soit obligé d'envisager d'envoyer là-bas le contingent, chose qui n'était jamais arrivée jusque-là. Ce qui était, encore une fois, je le répète, inattendu dans la bouche d'un homme comme moi qui vraiment s'était attaché à la solution de la paix.
Plus généralement, Pierre Mendès-France s'est un jour exprimé sur l'institution militaire.
Je me suis aperçu que c'était un monde qui avait sa réalité, qui avait sa psychologie, qui à certains égards avait des côtés enfin, très, très, très respectables, très estimables, même si certains de ces hommes avaient des œillères. Après tout, j'en avais aussi. Il n'y avait peut-être pas assez de communication entre les responsables politiques et les milieux militaires. Je me suis souvent plus fait ce reproche, ce qui n'a pas empêché que je suis un peu retombé dans le même défaut plus tard.
Alors Pierre Mendès-France trouve normal de faire 15 jours d'arrêt. Pierre Mendès-France déplore la difficulté de liaison, de communication avec l'institution militaire en général, Michel Field.
Je crois qu'il y a d'une part un thème assez traditionnel qui est de l'ordre des difficultés des hommes de gauche au pouvoir avec l'institution militaire, y compris d'ailleurs avec tous les fantasmes ou toute l'idéologie antimilitariste qui est plus ou moins assumée. Mais je crois qu'on surestimera jamais le fait aussi que proprement pour Mendès-France lui-même, il y a tout le passif de 40, c'est-à-dire la façon dont finalement toute la propagande commandée par l'état-major, faisant reporter la responsabilité de la défaite, non pas sur des erreurs militaires, mais sur la politique de la 4e République, et notamment lui, puisqu'il en était un des éminents représentants. On se souvient finalement de l'épopée du Massilia, le moment où tout le personnel de la 3e République sont partis avec une volonté de résistance, et comment cette équipée Dumas-Cilia a été présenté comme une désertion. Alors je crois qu'il y a tout ce passif-là qui a dû déterminer beaucoup le rapport difficile qu'il avait avec l'armée. Cela dit, son intuition, par exemple, sur l'Indochine, il l'était sur la base de rapports avec un certain nombre de militaires. C'est ce sur quoi Jean Lacouture avait insisté dans sa biographie, notamment le général Jacquinot et le général Faye, et aussi un rapport du général Leclerc qui montrait la nécessité de l'indépendance de l'Indochine.
Madeleine Ribériou.
Oui, d'une part, il est tout de même arrivé à Mendès de prendre les militaires avec lui dans les grandes circonstances. Par exemple, demander au maréchal Juin, comme il le fait en partant à Tunis, de venir avec lui, ce que Bourguiba approuve, mais ce qui est, en disant, c'est un coup que j'aurais voulu faire, emmener Juin. Mais ce qui paraît bizarre, disons, à son entourage, ça fait partie vraiment de cette volonté de lier l'armée lorsque cela paraît indispensable. Mais par ailleurs, je crois que dans la méfiance de Mendès devant l'armée, il y a autre chose. Il y a tout de même que l'armée des guerres coloniales, c'est une armée de pronunciamento, à la limite. C'est l'armée de la torture et c'est l'armée du pronunciamento, menaçant, et même parfois, bon, plus que menaçant. Bon. Et je crois que c'est ce qui rend un peu difficile la comparaison terme à terme avec, par exemple, l'armée nouvelle de Jaurès, à laquelle on a envie de penser quand on écoute le texte tout à l'heure. Parce que l'armée du temps de Jaurès, ce n'est pas une armée de coup d'État militaire, ce n'est pas une armée qui menace de réaliser un coup d'État. Et pourtant, Mendès, par exemple, à la fin de République moderne, en 1962, donc, ajoute tout un paragraphe sur l'armée dans lequel il dit, il reprend les mots, les propositions de Jaurès, et dit ce qu'il faut, c'est rapprocher l'armée de la nation. Et comment la rapprocher de la nation? Tout d'abord, former les cadres militaires là où on forme les cadres civils. Que suppression des écoles militaires, ou plutôt intégration de la formation militaire dans les universités. Grand thème jaurésien.
Jean-Marie Benoît.
Oui, je suis heureux que Madeleine Ribériou ait utilisé le nom du maréchal Juin tout à l'heure. Je suis heureux aussi d'avoir entendu le nom du général Koenig dans l'intervention que nous avons entendue, parce qu'il y a tout de même une composante qui n'a pas été évoquée, c'est le fait que la libération de notre pays a été due certes à la résistance, mais aussi, n'oublions pas, que ce sont des armées, l'armée française. Donc si on va un peu plus loin et si on s'interroge sur cette sorte d'amnésie, je crois que c'est une certaine forme d'impuissance chez Mendès France, qui est, je ne nie pas du tout, un prophète, qui a un côté prophétique, à assumer ces trois fonctions que sont la fonction, disons, religieuse et spirituelle, la fonction martiale, c'est-à-dire la fonction militaire, et la troisième étant la fonction de l'organisation de la production. C'est la vieille triade dumézilienne, et je pense qu'avant les institutions de la Ve République...
Une fonction civile, quand même, quelque part.
Oui,
hein,
oui, qui,
fonction
oui,
civile
oui,
et sociale aussi, ça, elle existe dans un petit coin, celle-là.
Oui, non, il y a le parlementarisme hérité, heureusement, mais je pense que c'est seulement avec la constitution de la Ve République qu'on aura des hommes capables d'assumer pleinement et de penser ces trois fonctions. Là, il y a une certaine impuissance à faire face aux faits de guerre, pour les raisons, en effet, parlementaires, et pour une tradition parlementaire qui se défie trop d'une forme de crainte dans l'armée de
on
voir
ne se
quelque chose d'incontrôlable.
On vient d'entendre Mendès France s'étonner de l'importance qu'il donnait à l'armée dans la paix dans l'outre-mer. Et c'est vrai que dans tous les points chauds de l'outre-mer, il a d'abord compté sur l'armée pour avoir la paix. C'est le cas en Algérie où il envoie du contingent, c'est le cas évidemment en Indochine avant la paix. Je crois que toujours il a compté sur l'armée pour la paix. Même si ensuite, et même dans les répressions, lorsqu'il n'est pas d'accord avec le gouvernement Guy Mollet sur les répressions, il n'accuse pas l'armée. Il dit « j'ai un concept républicain de l'armée qui veut qu'il n'y ait pas de différence entre l'armée et la nation. Défendre la nation, c'est défendre l'armée. » Il le dit, et il dit qu'en Algérie, les Français ont eu plus de difficultés avec l'administration qu'avec l'armée. Il a peut-être été un petit peu démagogique, mais il y avait chez lui un profond respect de l'armée et de la possibilité de la paix par l'armée.
Qui isole l'armée de la nation.
Voilà.
Oui, moi je suis assez d'accord avec ce point de vue. Je pense que tout de même, il y avait une très très grande ambiguïté dans les rapports de Mendès France avec l'armée. Et en particulier quand il parle de la torture en Algérie.
Qu'il n'est plus d'accord avec l'armée.
Oui, mais je voudrais justement amener de l'eau à votre moulin, si je peux me permettre. Oui. Quand il parle de la torture en Algérie, il en parle avec énormément de prudence concernant l'armée. Il ne met pas
l'armée en cause.
Il dit que ce sont certains officiers, certains soldats qui ont commis des exactions, mais que ça n'est pas l'armée en tant que telle qui
critique. Exactement, c'est en 58 qu'il se déterminera totalement totalement pour la responsabilité de l'armée dans ce qui se passe.
Mais en revanche, je crois d'autre part tout de même que ce qui va nourrir cette ambiguïté, qui est à la fois faite de respect et de crainte, c'est que je crois qu'il y a chez Mendès une obsession de la dictature militaire, et c'est lié très profondément à ses conceptions démocratiques, à ses conceptions démocratiques et républicaines. Et je crois que c'est ça qui explique la profonde ambivalence de ses rapports avec l'armée.
C'est ce que je crois que nous sommes d'accord.
En tout cas, c'est Dante Armatogae, hein. Il n'y a pas de problème chez Mendès. C'est le pouvoir civil qui dirige. Et c'est lui qui a la responsabilité, en toutes circonstances.
Oui. Mais le point de vue de Mendès France sur l'Indochine nous permettra d'aller peut-être plus avant dans ce débat.
L'idée était donner aux gens qui étaient en face de nous, les mettre dans l'obligation d'abattre leurs cartes très vite. Et le gouvernement français allait être dirigé par un homme qui avait, dans de nombreuses occasions, pris des positions, avait marqué très nettement sa volonté d'en finir avec la guerre. Il était indispensable de mettre les autres au pied du mur. Il était également indispensable de créer une situation psychologique telle que pratiquement la guerre ne se poursuivrait pas. Enfin, évidemment, si nous avions pu obtenir un armistice, on avait le temps de négocier. Il était visible, il était certain, on l'avait vu encore et ailleurs, qu'on ne pouvait pas obtenir d'armistice et que ceux qui sentaient gagner la guerre, que la guerre allait être gagnée pour eux, n'étaient pas du tout disposés à s'arrêter. Par conséquent, on ne pouvait pas obtenir un armistice. Mais on pouvait, l'idée était d'essayer de créer une situation telle qu'il leur était difficile de prendre une initiative militaire majeure. Autrement dit, même si le mot armistice n'était pas prononcé, créer une situation d'armistice, de gel des mouvements militaires. Et c'est ainsi que petit à petit a mûri l'idée d'un délai limite.
Souvent, et je remercie ceux qui le disent et le pensent, que j'ai obtenu un certain résultat en mettant fin à la guerre d'Indochine. C'est vrai. Mais supposer que je n'ai pas existé ou qu'un autre gouvernement ait voulu faire une autre politique, je suis persuadé qu'en définitive, l'Indochine serait tout de même devenue indépendante. Ça aurait mis quelques mois ou quelques années de plus. Y aurait eu quelques événements de plus, bons ou mauvais. En définitive, l'histoire avec un H majuscule n'aurait pas été modifiée. Ce que je peux mettre à mon actif dans cette affaire, c'est peut-être, compte tenu d'une situation qui me paraissait très claire quant au fond, c'est d'avoir assuré plus rapidement et dans des conditions finalement beaucoup moins pénibles et moins cruelles, ce qui ne pouvait pas ne pas se produire. Alors, ça a eu pour résultat peut-être de sauver un certain nombre de milliers de vies humaines. Et il y a peut-être aujourd'hui un certain nombre de milliers d'hommes qui vivent et qui n'auraient pas vécu. En ce sens, j'ai rendu service. Il y a d'autres cas dans lesquels je pourrais dire, sur des affaires peut-être moins éclatantes, moins spectaculaires, il y a d'autres cas dans lesquels je pourrais dire j'ai été utile, j'ai rendu service. Mais je ne prétends pas avoir changé l'histoire, encore une fois.
Alors, très grande modestie de Mendès France, c'est le moins qu'on puisse dire, ou bien orgueil au fond caché, Lisandriès.
Oui, je crois, orgueil, et aussi ce qu'on lui a reproché, d'ailleurs à l'époque, une certaine forme de masochisme qui est étonnante chez un homme politique. Ça m'a frappé non seulement pour la dernière intervention sur l'Indochine qu'on vient d'entendre, mais pour d'autres discours tenus par Mendès dont on a entendu des extraits. C'est-à-dire, à la limite, il a l'air de dire qu'un autre aurait fait aussi bien que lui, sinon mieux, que l'histoire était en route et qu'il a été là comme pur instrument.
Oui, alors il est tout à fait lucide. Oui, lucide. Un autre l'aurait fait dans la mesure où tout le monde, Tout le monde en France était pour l'indépendance de l'Indochine. Il n'y avait aucun problème de ce côté-là. Oui. Donc, ils ne se mettaient pas à dos la nation française.
Oui, je suis tout à fait d'accord, Josiane Rosine. Je voudrais terminer.
De l'Empire, après toutes les attaques de la droite extrême, vous ne pouvez pas dire qu'il y avait un consensus.
Oui, non, mais
elle coûtait très cher, l'Indochine. Et ça, tout le monde était d'accord.
Est-ce que je pourrais revenir quand même un petit peu sur ce personnage de Mendès qui est assez fascinant et assez étrange? Parce que même si ce qu'il dit est vrai, c'est étonnant qu'un homme politique de premier plan comme lui, disent les choses d'une façon aussi crue. Parce qu'il les dit sans cesse, il les dit constamment. Je pense en particulier à un autre discours qui se trouve dans ce tome 4 publié chez Gallimard, là, sur cette période 55-1962, où il parle alors de tout à fait autre chose que l'Indochine. Il parle de lui-même en tant que chef de parti. Et il dit devant le comité exécutif du Parti radical, il dit « Je suis certainement un mauvais chef de parti parce que je ne suis pas capable de jouer double jeu ». Il est perpétuellement en train de douter de lui-même et je pense que c'est malheureusement une de ses faiblesses.
Non, il ne doutait pas de lui-même pendant les 7 mois de présidence du Conseil. Il n'a pas douté de lui-même.
Par la suite.
Jean-Marie Benoît.
Oui, il y a quand même une forme d'humilité feinte, je dirais.
C'est lié à l'orgueil, bien sûr.
Mais au contraire, ça révèle un orgueil, mais un orgueil qui, en même temps, s'incline vis-à-vis du courant de l'histoire. Et l'expression « histoire avec un grand H » qu'il a employé est assez révélatrice. Et révélatrice aussi de quelque chose, c'est de ce profond contraste avec le général de Gaulle. L'homme de caractère tel que le général de Gaulle le décrit dans Le fil de l'épée et ailleurs, est tout de même quelqu'un qui sait s'élever au-dessus de cette prétendue fatalité de l'histoire, qui ne s'inscrit pas dans ce mouvement de nécessité.
C'est pas vraiment la fatalité de l'histoire.
En tout cas, cette nécessité de l'histoire dont parle Mendès ici...
C'est une vision de penseur politique, c'est tout autre chose.
Oui, mais c'est ce que j'essayais de formuler, c'est-à-dire que pour Mendès, au lieu de contrecarrer, on s'inscrit pour tirer le meilleur, je dirais, d'une situation en s'inclinant devant les forces. C'est-à-dire, c'est la pensée du roseau, alors que le général de Gaulle, c'est le chêne.
C'est pas tout à fait la pensée du roseau. Il y a aussi un autre aspect qui me semble important, c'est la notion d'être au service de la nation. C'est un terme qu'il a utilisé dans ce dernier discours. J'ai rendu service.
Mais c'est le
cas
aussi de l'homme de caractère qui se dresse. Lorsque l'homme de caractère se dresse, il est aussi au service de la nation.
Peut-être on peut essayer de généraliser un peu plus et de voir justement la conception que Mendès France avait vis-à-vis de l'ensemble du tiers-monde. Parce qu'on se rend compte que s'il a le sens de la décolonisation et qu'il parle du sens de l'histoire pour la décolonisation, pas évident qu'il soit effectivement convaincu de ce qui se passe du point de vue de l'indépendance des pays du tiers-monde et de l'intérêt qu'il y a à lier les politiques de la France, de l'Angleterre et des puissances européennes avec celles du tiers-monde. On a cherché un certain nombre de textes de Mendès France sur le sujet et en tout cas, du point de vue de ses communications radiophoniques, il n'y a quasiment rien sur le sujet. Alors on a l'impression qu'il est tout à fait convaincu d'être dans le courant de la décolonisation, mais est-ce qu'il a conscience effectivement qu'il y a un problème qui va se poser, qui est les rapports nord-sud, qui sont les rapports nord-sud?
Mais est-ce qu'on pourrait dater un peu les choses tout de même? L'histoire, ça se passe aussi à certains moments. Or, lorsque Mendès intervient en Indochine, il ne connaît pas l'Indochine. C'est un pays auquel il ne s'intéresse pas. Il est comme l'écrasante majorité des Français. Il n'a pas d'intérêt sur l'Indochine. Donc, son intervention en Indochine, c'est vraiment une intervention, je dirais, française, de sauver la France. Voilà. Hein, de
et
sauver
d'abord,
la France.
D'abord économique, c'est que ça coûte trop cher.
Ça coûte cher. De sauver l'armée et de sauver la France, finalement. Bon, il aura une toute autre vision de son intervention en Tunisie. En Tunisie, il connaît, en Tunisie, il sait qu'il va dans ce qu'il appelle le sens de l'histoire. Bon, et le texte que nous entendions tout à l'heure, le dernier texte, qui date de 63, est donc postérieur à la grande phase de décolonisation pour laquelle il a joué un si grand rôle et que finalement, de Gaulle achève en Algérie. Bon, et bien, donc, c'est un texte de conclusion. Et je crois qu'il faut vraiment dater les textes pour pouvoir les interpréter et ne pas faire des interprétations générales et, à mon avis, peu sérieuses historiquement.
D'accord, mais il n'empêche que sur la question du tiers-monde...
Sur le principe du tiers-monde, je suis tout à fait d'accord. Mais ça aussi, c'est un problème d'époque. Est-ce que dans les années 60... c'est-à-dire quand Mendès, ou dans les années 50, ou dans les années 60, quand Mendès est en état d'intervenir politiquement, est-ce que le tiers-monde est perçu comme au cœur des problèmes de la nation française? Je ne le crois pas. Je pense qu'en ce sens, en effet, c'est un bon jacobin. Néanmoins, il existe des textes très, très intéressants de Mendès France sur le tiers-monde, qui datent de 59, conférence devant les étudiants américains de juin 59, conférence à Dakar fin 1959, conférence au Chili janvier 1960. Dans cette série de conférences qui sont reproduites dans le volume publié chez Gallimard, à partir duquel nous discutons aujourd'hui, nous ne discutons pas quand même qu'à partir des interventions orales de Mendès, on le voit poser des problèmes très importants pour le tiers-monde. Obtenir que des entreprises étrangères implantées transforment sur place les matières premières. Hein. Pour les jeunes États, organiser la planification. Puis au Chili, poser le problème du marché commun latino-américain. Rendre des comptes aux Nations Unies de l'usage fait de l'argent prêté par les pays industriels. Et lors de sa conférence prononcée à Dakar, il part d'une définition du professeur Barr et explique qu'il est temps de définir et de développer le secteur industriel dans les pays autres que la France. Capitaux étrangers, formation des cadres, formation de la main-d'œuvre, commercialisation de la production agricole, obtenir que les entreprises étrangères implantées transforment sur place les matières premières. Tout cela, c'est le rôle, à ses yeux, d'une politique française en direction du tiers-monde. Il est vrai qu'il n'y a pas une continuité de grands textes sur ce point, mais il y en a trois, à un moment crucial, 59-60, au tournant du
Michel Field.
Je crois que, bon, tout ce qui vient d'être dit, on ne peut qu'y souscrire, et notamment cette volonté d'essayer de penser les bases d'un ordre économique mondial. Je crois néanmoins que Mendès n'a pas eu l'intuition ce problème qui allait devenir le problème fondamental des rapports entre les pays industrialisés et le tiers-monde. Et que sa vision reste finalement extraordinairement déterminée par un regard d'un économiste de pays industrialisés
Michel,
sur ces questions-là.
Michel, qui de nos hommes d'État actuels considère que ce problème est fondamental? Moi, je suis convaincu qu'il est fondamental. Vous,
oui,
vous êtes convaincu.
Si,
mais
François
mais
Mitterrand,
qui dans
Jacques
nos
Chirac.
Hommes d'État
si, si.
François Mitterrand.
Et Jacques Chirac aussi, il y a des textes remarquables.
François Mitterrand, oui.
Je suis assez étonnée par l'intervention de Michel Field parce que, toujours dans pour en revenir à ce tome 4 paru chez Gallimard, il y a énormément d'interventions de Mendès France sur le tiers-monde. Il y en a énormément. Il y a une politique économique que Madeleine Reberiou vient de résumer à l'instant, qui me semble quand même une analyse assez en avance sur son temps de la part de Mendès France. C'est quand même un des grands thèmes politiques de Mendès France, le tiers-monde et la décolonisation. Beaucoup plus que de n'importe quel autre homme politique de son époque.
Oui, mais la décolonisation peut-être, mais peut-être pas assez le destin des sociétés après la décolonisation des problèmes qui
ne pouvaient
peut-être pas anticiper.
Il en parle sur le plan humain, il en parle sur le plan économique aussi. C'est-à-dire qu'il voit ça que sous la forme d'une association économique après la décolonisation.
Mais dans un prisme
pas
un peu
d'une
plus galocentrique.
Politique.
Je crois quand même qu'il revient de façon assez obsessionnelle au problème de la décolonisation. Alors justement, il l'a dit à plusieurs reprises, on va en reparler là justement, parce que lorsque les franco-anglais sont allés à Suez, Mendès France est intervenu pour au fond comprendre ce qui se passait justement dans le cadre de ce concept de la décolonisation.
Il est indiscutable que le colonel Nasser était isolé, complètement isolé, au lendemain de la décision de nationalisation qui a été blâmée comme une violence inutile par l'immense majorité des gouvernements du monde. C'est un fait que 3 mois plus tard, la situation était bien différente et que, à l'isolement de Nasser, succédait alors l'isolement des États occidentaux, spécialement de l'Angleterre et de la France. La solidarité arabe avait eu le temps de se cimenter autour du colonel Nasser, car dans toute cette période de 3 mois, il était apparu comme l'homme qui n'avait pas eu peur de défier les plus grandes puissances occidentales, qui n'avait pas craint de prendre vis-à-vis d'elles une attitude provocante et audacieuse, et le temps qui s'est écoulé le faisant apparaître comme ayant en quelque sorte gagné dans cette rivalité entre l'Orient et l'Occident. Le temps, je le répète, a joué pour lui, et un grand nombre de pays qui, à l'origine, lui donnaient tort, se sont pris à considérer que, décidément, il avait eu raison de prendre de pareils risques, puisqu'il en recueillait les fruits.
C'est tout de suite après la décolonisation pour Nasser, donc du canal de Suez, en tout cas l'occupation des franco-anglais, que Mendès France se prononçait ainsi. Alors, au moment de la guerre des Six Jours, il avait en fait une position à peu près identique, encore qu'il s'agissait maintenant du conflit du Moyen-Orient au moment de la guerre des Six Jours, et il plaidait pour l'équilibre entre Israël et les pays arabes.
Un équilibre précaire, mais effectif, était réalisé au Moyen-Orient depuis 10 ans. Cet équilibre a été rompu par une erreur grave commise par le secrétaire général des Nations Unies. Et c'est cependant cet équilibre qu'il faut rétablir sous une forme ou sous une autre, sans qu'aucune des parties en cause puisse tirer des incidents actuels un avantage ou une victoire insupportable pour une autre.
J'ajoute d'ailleurs que que ce revirement de l'opinion internationale est facile à comprendre. Il est tout à fait comparable à ce qui peut se produire dans la vie privée. Un homme me donne un coup de poing, je réponds sur le champ. Chacun me donne raison, c'est la légitime défense. Un homme me donne un coup de poing, je ne bouge pas, ou je l'appelle chez le juge de paix. L'affaire traîne, elle dure 3 mois. Et un jour, ayant pris quelques précautions et m'étant muni de moyens supplémentaires, je le frappe. Tout le monde me donnera tort et tout le monde considérera que je me suis mis dans mon tort pour, avec 3 mois de retard, répondre par une violence nouvelle susceptible de ranimer le danger de guerre à une violence qui s'est estompée dans le lointain et qui avait été déférée à des instances judiciaires, ce qui paraissait supposer qu'on ne recourrait pas à la force pour y répondre.
Alors cette métaphore du coup de poing, elle a pour objectif en fait de rendre compte de ce qui s'est passé pendant la guerre des 6 jours, en tout cas c'est comme ça que Mendès-France l'utilise, et en fait pour lui, elle signifie que quelquefois on ne peut pas toujours voir clair, parce qu'on ne se rend peut-être pas compte des circonstances dans lesquelles les coups sont portés. Jean-Marie Benoît.
Je crois que là on retrouve encore un schéma qui est constant, et que je voudrais rapporter à la notion de, qui est dite par Machiavel, de prophète mal armé. Il y a quelque chose chez Mendès-France qui lui... occasionne des erreurs de jugement, peut-être, vis-à-vis des situations historiques. Nous parlions tout à l'heure de sa défiance vis-à-vis de l'armée, de cette espèce de, non pas de phobie, mais d'ambiguïté de rapport vis-à-vis de l'armée. Là aussi, nous trouvons, dans, à la fois dans cette sorte de justification de Nasser, qui rétrospectivement paraît tout de même un tout petit peu situé, et aussi dans cette analyse de la force, du long terme, etc.
C'est pas une justification, c'est pas du tout une justification. Non,
une justification historique. Il y a tout de même une forme de dénonciation que Nasser a regroupé autour de lui des forces, etc., qui ne se trouve pas justifiée moralement, mais qui se trouve historiquement, en quelque sorte, reconnue par lui. Et là, je crois que nous trouvons ce prophète mal armé. Et j'ajouterais que ça se retrouve au moment de sa critique de l'élection du président de la République au suffrage universel. Quand il s'est mis à militer contre ce qu'il a appelé le pouvoir personnel, il a manqué, là aussi, un niveau d'analyse. Et je crois que ça reste le prophète mal armé.
Madeleine Ribeiro.
C'est là que nos opinions, je le crains, divergent profondément. Parce que moi, ce qui m'a gêné dans le texte que Mendès-France prononce à propos de Nasser, c'est justement qu'il ne comprend pas réellement ce qu'il y a derrière Nasser. Ah. Et que c'est justement qu'il sous-estime ce que représente Nasser pour l'ensemble des pays, pas seulement du Proche et du Moyen-Orient, mais du tiers-monde, et pour toutes sortes de pays en cours de décolonisation. C'est cela qui ne ressort pas de ce texte, me semble-t-il. Et moi, personnellement, je l'analyserais comme une faiblesse de Mendès de ce point de vue-là. Alors, je comprendrais bien les positions d'équilibre, je sais très bien... Enfin, j'essaie de me souvenir de ce qu'a été l'occupation du canal de Suez par les troupes anglo-françaises, de la passion absolument incroyable qui s'est déchaînée de Guy Mollet, disant ouais. « Nasser, c'est Hitler ». Propos absolument incroyable, enfin, je veux dire, incroyable par rapport à la réalité d'Égypte, incroyable par rapport au tiers-monde, incroyable par rapport à ce que représentait la montée de la décolonisation dans ces années-là. Bon. Et c'est par rapport à cela que je trouve ici Mendès un peu, j'oserais dire, faible. Et je crois que je comprends pourquoi. Je crois que c'est parce qu'il s'exprime en tant qu'homme politique qui se prépare à reprendre le pouvoir, pour qui le pouvoir est encore à portée de la main, et que dans ce pouvoir à portée de la main, il sait, finalement, que tout doit être négocié, qu'on ne peut pas refaire à tout instant des coups comme celui de la Tunisie, ou à la limite, je dirais, comme celui d'Indochine, dont nous parlions tout à l'heure. Oui, et je crois que c'est l'homme de pouvoir à reconquérir, qui s'exprime ici, plus que celui qui, justement, aurait dû comprendre ce que Nasser disait au tiers-monde tout entier.
Est-ce que le mot-clé, finalement, ce n'est pas le mot équilibre qu'il a prononcé tout à l'heure, c'est-à-dire équilibre d'une part au moment des anglo-français, c'est-à-dire qu'il faut expliquer aussi qu'est-ce qui se passait, quels intérêts étaient défendus par les anglo-français, son souci c'est de rendre compte de cette réalité, équilibre entre Israël et les pays arabes, équilibre qui serait valable encore aujourd'hui, me semble-t-il, entre Israël d'un côté, il était très attaché au droit à l'existence de l'État d'Israël, et d'autre part, les Palestiniens. Le droit des Palestiniens à avoir une terre. Oui, et on a l'impression que chaque fois,
une fois qu'on a dit équilibre,
je crois qu'il a une conception tout à fait angélique du nationalisme. Voilà, je crois qu'il a effectivement une conception angélique du nationalisme.
Idéaliste,
il croit qu'on peut réaliser ses aspirations nationalistes dans l'amitié de la France. pour en ce qui concerne donc l'outre-mer. Ça, il y croit fermement jusqu'au bout. Et c'est pour ça qu'il parle bien avant de décolonisation, parce que le mot viendra très tard, de fédéralisme, de fédération, de confédération.
C'est parce qu'il ne perçoit pas la France comme une nation coloniale. Or, elle l'est, pas seulement l'État, mais la nation était coloniale. Et je crois que c'est cela que Mendès ne peut pas admettre dans un pays qui est le sien et auquel il a...
Mais l'Union française, il y a cru longtemps. Longtemps, il n'était pas le seul. Et pour lui, le modèle, c'était le plan Colombo.
Le Parti communiste aussi a cru, lui-même a cru longtemps à l'Union française.
Jean-Marie Benoît.
Il y a peut-être une impuissance, en effet, à comprendre, comme dit Madeleine Hervieux, la notion d'empire, d'impérialisme, d'empire, etc., même quand elle est exercée, d'ailleurs, par son propre pays. Et je dirais que ces points d'équilibre successifs rêvés par Mendès France, car finalement, Mendès France, je crois, a rêvé son action politique, beaucoup plus qu'il ne l'a faite. Eh bien, je dirais que ces équilibres sont des formes de synthèse trop précoces et obtenues à trop bon marché, je dirais, insuffisamment dialectiquement, on pourrait le dire.
Enfin, six mois, quand même, où il a fait beaucoup de choses.
On a parlé d'idéalisme. Là, on vient de parler de rêve. Il ne faut pas non plus exagérer. Angélisme, parce que il y a... Bon, angélisme, je le pense aussi. Mais il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, des réalisations pratiques. Il y a aussi des conseils extrêmement précis qui sont donnés. Enfin, à propos, par exemple, de la guerre d'Algérie, en pleine guerre d'Algérie, en 1956, quand c'est un gouvernement Guy Mollet qui est constitué, il y a une note sur l'Algérie de Mendès France qui est extrêmement, enfin, qui est un travail de précurseur. On a dit à l'époque et plus tard que la guerre d'Algérie aurait peut-être été évitée si on avait écouté Mendès France. Oui. Il me semble, on ne va pas entrer dans un débat très long, mais il me semble que c'est vrai. Et quand on lit cette note sur l'Algérie, donc de 1956, il y a des mesures extrêmement concrètes, extrêmement précises qui sont indiquées par Mendès France. Libérer les détenus politiques, lever la censure de la presse, exproprier les grands propriétaires terriens, augmenter les salaires en Algérie, etc. Ce ne sont pas des mesures d'hommes qui rêvent.
C'était déjà trop tard. Il fallait dire ça en 54.
Voilà.
C'était déjà trop tard. Là, c'est deux ans.
Non, il a raison de dire. Le problème de fond n'est pas là. Le problème de fond n'est pas là. Le problème de fond, il est dans le rapport entre morale et politique. En fait, vous êtes en train de dire que le faire valoir la morale avant la politique, c'est être idéaliste. Moi, je pense que le concept d'équilibre dans l'œuvre de Mendès France, c'est un concept moral qui a des conséquences politiques. Et qu'il est possible de mener une politique articulée sur cette morale. Alors que des réalistes nous crient que c'est impossible, ça c'est leur droit. Oui. Mais moi je pense que c'est possible et qu'il l'a prouvé. Il l'a prouvé quand il a réussi la décolonisation de l'Indochine. Il l'a prouvé quand il a réussi l'autonomie de la Tunisie. Oui. Donc je crois qu'il l'a prouvé dans un certain nombre de circonstances.
Tout à fait. On peut être un grand idéaliste et un grand homme politique. Les deux choses sont souvent liées.
S'il avait été réaliste, Guy Mollet ne serait pas devenu président du Conseil grâce à son...
Non mais j'ajouterais quelque chose, c'est qu'on se fait un peu plaisir aussi. 30 ans après, une fois que l'histoire s'est déroulée, où effectivement
on demandait les points,
et ce qu'on oublie, c'est aussi toutes les énormités qui étaient dites de part et d'autre. C'est-à-dire là, je rejoins un peu Antoine Spier. C'est vrai que entendre Mendès parler d'équilibre, bon, on se dit tout reste à faire une fois qu'on l'a dit, mais c'est vrai aussi que si on rapporte ce discours par rapport à tous les discours qui alors prônaient le déséquilibre de part et d'autre, alors la justesse finalement du jugement et du regard...
Il était d'une lucidité extraordinaire.
Oui, pas assez pour reprendre le pouvoir alors qu'il avait le parti le plus important.
En tant qu'homme politique, juste un tout petit mot, si on compare Guy Mollet et Mendès France, je crois quand même que la postérité fera le choix très très facilement.
Il l'a fait tout de suite.
Oui, mais Jean-Marie Benoît. Je parlais du réalisme de Mendès.
On a tort d'opposer simplement idéalisme et réalisme. Je crois que Mendès France a choisi, dans son projet, au sens sartrien, une position de morale. Et de morale qui va avoir pour conséquence que dans les circonstances politiques où il va tenter d'illustrer et de pratiquer cette morale, il se bornera à ses équilibres conjoncturels sans une suffisante capacité, on pourrait dire, à appréhender les côtés structurels des problèmes. C'est-à-dire le long terme, on parlait du tiers-monde tout à l'heure, on parlait aussi même des coups réussis de la Tunisie ou de l'Indochine, mais il manque là, en raison même de cette moralité, c'est-à-dire de quelqu'un qui s'est réfugié dans le devoir-être et qui n'a pas su affronter la dure réalité de l'être, je dirais.
Non, c'est un homme qui a été très réaliste au pouvoir. Il y avait deux contrats à remplir, l'un a rempli un autre, l'autre il n'a pas eu le temps de le remplir. Il a été très réaliste dans ce qu'il a fait au moment où il avait le pouvoir. Ensuite, ça a été un homme encore plus intéressant quand il n'a pas eu le pouvoir, mais il a manqué de ce réalisme qui lui permettait de reprendre les rênes de l'action politique. Vous l'avez dit tout à l'heure, Guy Mollet, effectivement, était un petit à côté de Mendès France. Et pourquoi Mendès France n'a pas pu reprendre le pouvoir alors que c'est lui qui avait en main tout le pouvoir.
Il y a juste une petite circonstance historique, c'est que le président de la République a choisi Guy Mollet et non pas Mendès France, alors que toute la France attendait Mendès France.
C'est plus compliqué que ça.
Non, mais je voudrais dire tout de même que parmi les dernières grandes déclarations de Mendès, il y en a une qui est fondamentale pour nous aujourd'hui. Et c'est son appel avec Nahum Goldman sur la Palestine et sur Israël. Et que ce texte vraiment beau, il est prononcé en accord avec le président du Conseil du Congrès mondial juif, bon, dans lequel il appelle à reconnaître les droits des Palestiniens à constituer un État indépendant. Il appelle à négocier avec les Palestiniens. Il a renoncé à ce moment-là à la négociation exclusive par l'intermédiaire des partis arabes, des organisations arabes. Hein. Il a reconnu les Palestiniens comme interlocuteurs réels d'Israël. Je crois que ce texte, c'est celui dont nous pouvons et nous devons nous inspirer aujourd'hui dans toutes les campagnes que nous conduisons au sujet de cette zone du monde si épouvantablement troublée et au sujet d'un peuple qui est en train de voir mourir deux ou trois des siens chaque jour.
Il manque le respect pour la réalité d'Israël qu'on devrait d'abord exiger de l'OLP et des Palestiniens, car là aussi, on est dans l'angélisme.
Alors écoutons Mendès France de façon plus générale sur les problèmes de la démocratie.
On peut imaginer, à la rigueur, que dans le cadre du despotisme, de l'hypothèse du bon tyran, on peut imaginer que l'homme qui a tous les pouvoirs mente. Après tout, il n'a de compte à rendre à personne, il est maître lui-même. Peut-être même dira-t-on que la fourberie, l'approximation habile sont des moyens supplémentaires auxquels il aura recours pour réussir plus pleinement. Le despote, au fond, ne lui demande pas la vérité. En démocratie, si c'est le peuple qui délibère et si c'est le peuple qui décide souverainement, le mensonge devient impossible. Comment demander au peuple de se prononcer sur la base d'informations qui seraient fausses, qui seraient de cartes qui seraient biseautées. On ne peut pas mentir en démocratie, ou alors il n'y a plus de démocratie. On fraude avec la démocratie.
Et pourtant, on l'a vu.
Bien sûr, on l'a vu. Et c'est pourquoi les cas de démocratie que nous avons connus n'ont jamais été totalement satisfaisants. Ils étaient fondés sur des hommes, les hommes sont imparfaits, et le resteront sans doute encore longtemps, peut-être toujours. Par conséquent, je ne crois pas que nous aurons jamais le paradis démocratique total. Je crois que la démocratie est un grand progrès, est une approche satisfaisante, meilleure que les autres formes de pouvoir et de fonctionnement politique. Il n'en reste pas moins que la démocratie comporte des faiblesses, des retards, des approximations, des erreurs, bien entendu. Mais tout en ayant pleine conscience de ses imperfections, je suis persuadé, c'était la conviction que Churchill a exprimée lui-même d'une manière spirituelle, que la démocratie est en définitive le meilleur, le plus civilisé, le plus moderne, le plus efficace des fonctionnements politiques possibles.
Oui, Churchill disait exactement, c'est le pire des régimes à l'exclusion de tous les autres.
Fort que la formule de Mendès.
Oui, alors c'est le problème qu'on peut se poser.
Il a atténué, justement.
Alors le problème qu'on peut se poser, c'est justement, est-ce que chez lui, l'exigence morale, finalement, qui était essentielle, ne le conduisait pas à être relativement loin d'une certaine réalité? Et quand il dit, par exemple, qu'il faut que le régime soit entièrement transparent à lui-même, est-ce qu'il ne rêve pas un peu? Et est-ce que ce n'est pas une exigence que tout régime démocratique devrait avoir, mais en fait, en sachant bien que c'est très difficile à remplir, Lise Andriès.
C'est déjà bien d'avoir l'exigence, même si la réalisation est difficile. Non, je crois que Mendès France est surtout... c'est un petit peu comme ça que dans ce discours, on peut le percevoir. Il renoue avec les anciens idéaux du Parti radical socialiste, c'est-à-dire à la fois un attachement très grand à la démocratie, aux vertus républicaines. Il parle ailleurs de la laïcité de l'enseignement, c'est aussi un des thèmes très importants chez Mendès, qui me semble aussi un thème tout à fait radical socialiste. Et il y a aussi profondément chez Mendès le fait que c'est, il me semble, un homme des Lumières. Parce que quel est son grand modèle historique? C'est la Révolution française, c'est aussi les Jacobins. Quels sont ses grands modèles d'écrivains politiques? C'est Montesquieu avec l'équilibre des pouvoirs et c'est aussi Tocqueville. Et là, on retrouve ces notions de morale. Il dit quelque part dans un de ses discours, la vertu est républicaine, il suffit de lire Montesquieu. Il y a ça, je crois, dans les conceptions de Mendès France à propos de la démocratie. Un dernier mot encore, le langage transparent, il est lié à tout cela, il est dans la logique même de tout cet idéal. Il est aussi dans ces attaques permanentes de Mendès France à propos de la langue de bois des politiciens professionnels, à propos de ce contrat de loyauté, dit-il, que l'homme politique noue avec la nation. Je crois qu'il y a tout cela dans cette déclaration de Mendès France.
Jean-Marie Benoît.
Il y a peut-être une certaine dénégation vis-à-vis des rapports de force. Il ne pense pas les rapports de force du monde, d'où l'enfermement dans une position trop française et impuissante à reconnaître le côté incontournable de certains rapports de force.
Je crois qu'il le voit mal, parce que je crois plutôt que c'est quelqu'un qui est hanté par l'idée de représentation et d'une juste représentation, que ce soit d'ailleurs au plan politique, comme on en avait parlé la semaine dernière, au plan syndical. Et ce qui fait aussi, je dirais peut-être, ce qui permet de comprendre l'excès de ces jugements, alors par exemple vis-à-vis de De Gaulle et vis-à-vis de la Ve République, mais aussi vis-à-vis des partis. Il a toujours été lui-même dans un rapport très complexe vis-à-vis des partis, et y compris du sien, comme si les partis étaient...
C'était plutôt un homme de rassemblement qu'un homme de parti.
Mais parce qu'il se posait toujours la question qui est en effet fondamentale quand on pense à la démocratie.
Il a surtout posé la question essentielle lorsqu'on veut parler de démocratie, c'est des rapports de l'État et du citoyen. Il ne considérait pas que l'État était forcément
c'est
un
pas
imposteur.
Pas vraiment différent.
Oui, ce que vous veniez de dire. Mais je crois qu'il a effectivement compté sur le pouvoir réel du citoyen. Il ne supportait pas l'indifférence politique et il ne voulait pas que la politique soit entre les mains d'une élite politique. La politique, c'était l'affaire de tous. Et il ne voulait pas non plus que l'État considère le citoyen comme un gêneur, un ennemi ou un adversaire. C'est les rapports de l'État et du citoyen qu'il a tout à fait bien décrit dans son fonctionnement démocratique.
Il vaut mieux un grand Paris que pas de Paris.
On va en rester là pour Pierre Mendès France. Donc, on peut conseiller la lecture d'une part des 4 volumes déjà parus, donc de son œuvre complète aux éditions Gallimard.
Grand orateur, grand écrivain.
Et puis le livre de Bédarida et Rioux, dont on a parlé déjà la semaine dernière, paru chez Fayard sur Mendès France et le Mendésisme. Et puis la très bonne biographie écrite par La Couture sur Pierre Mendès France, qui était parue aux éditions du Seuil.
Cette émission a été diffusée la première fois le 1er juin 1988 sur France Culture.